Le procès des emplois fictifs de la province sud, 5 cadres de Calédonie Ensemble, dont Philippe Gomez, comparaissent ce matin. Le procès doit durer toute la semaine. Retour sur les discussions politiques de la semaine dernière. Virginie Rufnac était notre invitée ce matin et ce sera aussi le thème de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. La province sud signe la charte pour le changement du Conseil international des infirmiers, une manière de saluer leur engagement auprès des populations. À l'étranger, Vladimir Poutine propose des négociations directes et sans conditions préalables avec l'Ukraine. Elles devraient avoir lieu en Turquie jeudi prochain. Plus jamais la guerre, le pape Léon XIV a repris la célèbre formule de Paul VI lors de sa première prière dominicale sur la place Saint-Pierre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal pour le sport. Je vous donne évidemment rendez-vous pour le MAC des sports du lundi dès la fin de cette édition. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François.
Nous saluerons plusieurs exploits français et notamment celui de Johann Zarco.
Eh oui, il a remporté le Grand Prix de France de MotoGP. Il est devenu le premier français à s'imposer donc en MotoGP au Mans depuis Pierre Monneret. C'était en 1954, 71 ans d'attente pour honorer le public tricolore. Et en prime, une Marseillaise sans fausse note.
Et puis il y a des Français qui marchent bien aussi en tennis.
Ouais, à l'approche de Roland-Garros, les jeunes tricolores ont les dents longues sur la terre battue italienne à Rome. Arthur Fils a réussi un joli coup en éliminant le grec Stefanos Tsitsipas. Il aura fort à faire en huitième de finale face au numéro 2 mondial Alexander Zverev. Et Corentin Moutet s'est lui imposé sur le Danois Holger Rune. C'est la première fois qu'il élimine un joueur du top 10 mondial.
On fera le point sur les championnats de France, notamment de football et de rugby. Et puis dans l'actualité en Calédonie, nous parlerons de la saison de hippisme.
Oui, après une longue interruption, la saison 2025 s'élancera le 31 mai à Bouraille avec 9 dates au calendrier cette année, parmi lesquelles la Bouraille Cup ou encore la Casino Coupe Clark. Cette reprise était attendue pour toute la filière. Nous en parlerons donc ce midi avec Nicolas Schneider, le président de la Fédération des courses hippiques de Nouvelle-Calédonie.
Rendez-vous pour le MAC des sports donc dès la fin de ce journal. Journal que nous ouvrons avec l'actualité judiciaire. Philippe Gomez, Philippe Michel et 3 autres responsables de Calédonie Ensemble comparaissent depuis ce matin pour détournement de fonds publics entre 2014 et 2018. Un procès qui avait été renvoyé déjà à 2 reprises. Au palais de justice, on retrouve Nicolas Legrand.
Oui, c'est un véritable feuilleton politico-judiciaire. Ce procès devait initialement se tenir en décembre 2023. Mais vous venez de le dire, Jean-François, il a été reporté à 2 reprises. Une première fois pour un vice de procédure. L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'était pas assez précise et ne respectait pas le code de procédure pénale. Ensuite, le deuxième report était lié à des questions d'organisation. Ce matin, les débats ont débuté par le rappel des faits. 46 collaborateurs de Calédonie Ensemble, de la province sud, mais aussi du Congrès, n'auraient pas exercé les missions prévues entre 2014 et 2018, lorsque Calédonie Ensemble était à la tête des institutions, tous issus de la communauté wallisienne et futunienne, dont des chefs coutumiers avec des temps de travail extrêmement réduits, parfois moins de 20% d'un temps plein et sous des fonctions jamais exercées au profit de la province sud notamment, qui s'est portée partie civile. Ils étaient rémunérés entre 80 et 150 000 francs et d'après les investigations, le montant de ces indemnités dépendait du niveau des collaborateurs dans la hiérarchie coutumière. L'enquête qui a été menée pendant près de 4 ans aurait permis de mettre à jour un vaste système d'emplois fictifs lié à la communauté wallisienne et futunienne au profit de Calédonie Ensemble. Ces emplois auraient eu pour objectif de préparer les élections provinciales de 2019 en demandant aux chefs coutumiers wallisiens et futuniens, chefs de village et de district, de faire de la propagande auprès de la communauté. Ils étaient notamment chargés d'organiser des réunions politiques pour promouvoir le programme de Calédonie Ensemble, mais aussi du député de l'époque, Philippe Gomez, ce qui a été confirmé à la lecture des procès-verbaux des auditions d'une vingtaine de collaborateurs ce matin. Cette affaire a été mise en lumière par Sonia Baquet, qui a alerté la justice en 2018, et confirmée par Philippe Eletto Mouyakaaka, l'un des prévenus. Plusieurs perquisitions ont eu lieu ensuite dans les locaux de Calédonie Ensemble. C'était fin 2018, mais aussi au foyer wallisien de Magenta en 2021. Philippe Gomez a toujours démenti ses accusations d'emploi fictif. Après le rappel des faits et la lecture des auditions de collaborateurs et des élus de Calédonie Ensemble, l'audience doit être suspendue d'ici quelques minutes, le temps d'une pause. Elle reprendra ensuite avec l'audition des 2 premiers prévenus qui sont poursuivis pour complicité sous citatio Lagadec, ancien élu de la province et du Congrès, et Philippe Eletto Mouyakaaka. Le procès est prévu pour durer 5 jours au tribunal de Nouméa. Nicolas Legrand, RRB.
Merci Nicolas, un procès que l'on suivra évidemment au fur et à mesure des audiences sur Radio Rythme Bleu. L'actualité politique et les discussions sur l'avenir institutionnel, dont le troisième round s'était ouvert le 30 avril et qui se sont soldés, vous le savez, par un échec au terme des jours de conclave organisés à Deva par le ministre des Outre-mer. Pour Virginie Rufnacht, qui conduisait la délégation du Rassemblement, la négociation n'a jamais été possible parce que Manuel Valls a mis dès le début sur la table son projet d'indépendance association. Elle explique qu'à partir de là, aucune discussion n'était possible et que les partisans de la France n'ont pas pu défendre leur projet. Projet qui, dit-elle, a été caricaturé par le ministre des Outre-mer, qui a parlé de partition.
Nous souhaitions mettre un maximum de compétences dans les provinces parce que notre territoire est d'une grande diversité et qu'aujourd'hui nous nous battons au Congrès pour un choix unique que nous n'arrivons jamais à poser en termes de fiscalité, en termes de développement, en termes de santé ou autre. Et par conséquent, nous avions proposé de venir à un état d'esprit de souplesse institutionnelle, de différenciation provinciale, qu'on laisse le Nord, les îles et le Sud faire les modèles qui leur correspondent où il y a des choix politiques différents. Mais ça, ça ne veut pas dire l'indépendance d'une des trois provinces. À aucun moment nous avons proposé les loyalistes et le rassemblement, l'indépendance d'une des provinces. Ça n'était pas du tout ça. C'était une grande souplesse institutionnelle. Nous voulions défendre cela et finalement, on voit bien que ça a été très rapidement caricaturé par le ministre.
Et selon le chef du groupe Rassemblement au Congrès, Manuel Valls a tué la négociation dans l'œuf.
Il n'avait qu'un seul cap qui était ce projet d'indépendance association qu'il a porté jusqu'au bout. Il n'a pas permis que prospère une autre solution. Et pire que cela, il n'a pas, sur le projet d'indépendance association qu'il a défendu à Bourail, tenté de revenir en arrière. Et c'est ça qui est très choquant pour nous, parce que dès le 30 avril, lorsqu'il arrive en bilatéral et qu'il nous explique ce choix, tout de suite, les loyalistes et le rassemblement, nous lui disons que jamais nous ne signerons ça. Et nous sommes très critiques, voire très combatifs, pour ne pas dire autre chose. Et nous pensions que le 5 mai à Bourail, il allait revenir un peu sur ce qu'il avait promis aux indépendantistes. Et à aucun moment, il ne reviendra d'une virgule sur le projet qu'il a mis sur la table.
Un projet d'indépendance association proposé par le ministre des Outre-mer et seuls les partisans de la France, loyalistes et rassemblements s'y sont opposés, affirme Virginie Rufnacht.
Je pense qu'il y avait une volonté qu'on quitte la table parce que si nous n'étions plus là, ben, il n'y avait que des gens favorables finalement à ce projet d'accord. Entre certains qui sont favorables à l'accord en disant que vaut mieux un accord que rien du tout, même si c'est l'indépendance, ce qui évidemment, vous comprendrez bien que pour nous, le vrai chaos ça n'est pas d'accord. Le vrai chaos, c'est l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie dans une période où elle a plus besoin de France que jamais. Et puis, du côté des indépendantistes, bah, l'UNI, c'était son projet. Hein. Donc, en fait, le ministre a posé le projet de l'UNI sur la table. Et quant à l'UCFNKS, une fois qu'on leur a proposé l'indépendance, ils se sont ralliés à cette solution. Et ça a bloqué toute possibilité d'évolution de leur côté. Puisque quand on vous donne ce que vous souhaitez, ça vous pousse à un immobilisme total.
Une interview de Virginie Rufnacht a retrouvé en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Revenons encore sur ces discussions à Deva. C'est aussi ce que propose Elisabeth Noir dans sa chronique de la semaine écoulée que l'on retrouve tout de suite.
Trois petits tours et puis s'en va. Il n'y a pas eu d'accord de Deva. Cette triple séquence de discussions sur l'avenir institutionnel a un terrible goût d'inachevé. Surtout que Manuel Valls est reparti comme si de rien n'était, sans laisser de feuille de route et avec le seul bilan d'un échec. Nous devons constater avec franchise qu'aucun accord n'a été conclu, a déclaré sobrement le ministre des Outre-mer. Et il cachait mal sa déception, lui qui avait mis tout son poids dans la balance, et était même allé jusqu'à nous menacer du chaos ou de la guerre civile si aucun accord n'était trouvé. Et l'on se demande comment il s'est lui-même enfermé dans ce cercle vicieux dont un non-accord était l'issue inéluctable, alors que déjà un accord était très improbable. Pourquoi Manuel Valls, qui jouait une partie de son avenir et de sa réputation politique dans le dossier calédonien, a-t-il choisi délibérément la politique du pire et la fuite en avant? Cela laisse perplexe et l'on est obligé de chercher quelques explications à l'attitude insensée d'un ministre d'État qui vient proposer un projet d'indépendance association à des Calédoniens qui ont refusé à trois reprises l'indépendance. Et deux motivations viennent à l'esprit. La première, c'est qu'il pensait vraiment réussir à obtenir un accord. Il était parti le mois dernier en affirmant qu'une étape décisive avait été franchie et il se disait que c'était plié, qu'il suffisait d'enfermer tout le monde dans un hôtel pendant deux ou trois jours pour arriver à ses fins. Mais n'est pas Michel Rocard qui veut et la stratégie du huis clos ou du conclave, ça ne marche pas à tous les coups. Et pourtant, Manuel Valls s'y croyait. Parce qu'il a une image erronée du paysage politique calédonien, une image qui est d'ailleurs largement partagée et relayée par une certaine presse. Pour eux, il y a en Calédonie des modérés et des radicaux. Les modérés, ce sont l'UNI, Calédonie Ensemble et l'Éveil Océanien. Une sorte de centrisme qui serait prêt à un accord quel qu'il soit et à n'importe quel prix. Mais c'est déjà une erreur absolue de faire l'amalgame entre ces trois formations. Quant aux radicaux, ce sont l'UCF-LNKS et les loyalistes et le Rassemblement. Ils sont renvoyés dos à dos, comme si l'on pouvait traiter de la même façon la CCAT et ses soutiens, qui se sont livrés à des violences insurrectionnelles destructrices et cataclysmiques pour tenter d'imposer une indépendance pleine et entière, et les partisans de la France qui refusent l'indépendance parce que c'est le choix fait par une majorité de Calédoniens. Mais pour Manuel Valls, une partie de la gauche et une certaine presse, c'est la même chose. Ils sont estampillés radicaux. C'est peut-être sur ce postulat erroné que le ministre des Outre-mer comptait bâtir un accord. Tout n'aurait pas été joué pour autant, mais au moins, il aurait pu sauver la face en expliquant que ce sont les partisans de la France radicalisés qui avaient fait obstacle à son projet. L'autre motivation est moins machiavélique mais plus triviale. Manuel Valls a peur. Il a peur de la CCAT et de ses violences. Il est tétanisé. Pendant ces 3 jours de conclave, l'œil de Bakou était dans la place, au sein même de la délégation FLNKS. Et on ne sait pas quel message lui a été passé, mais le 13 mai est pour lui un horizon indépassable. Il y a le résultat des 3 référendums, dit-il, mais il y a le 13 mai. Il faut ouvrir le corps électoral, reconnaît-il, mais il y a le 13 mai. Comme si pour un ministre d'État, ancien Premier ministre, la violence pouvait l'emporter en légitimité sur la démocratie et l'intégrité de l'État. Mais il se dit que le retour en métropole de Manuel Valls ne sera pas des plus simples, parce que sa proposition insensée n'aurait pas été validée au plus haut sommet de l'État. Manuel Valls a joué et il a perdu. Rien ne dit qu'il reviendra en Nouvelle-Calédonie une 4e fois.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, elle est à retrouver sur notre site internet ou alors à réentendre juste après notre flash à 16h cet après-midi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS. Voici notre question du jour. Le dispositif de maintien de l'ordre mis en place par le Haut-Commissariat près d'un an après le début des violences insurrectionnelles est-il selon vous adapté à la situation? Si vous trouvez que ce dispositif est adapté, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Une enquête est en cours après la découverte du corps d'un nonagénaire dans des circonstances suspectes à Dumbéa. Nous vous en parlions dès hier. La victime a été retrouvée dans son logement. La maison avait brûlé la semaine précédente dans un secteur isolé à Nondoué. C'est seulement vendredi dernier que la nièce du défunt qui s'est rendue sur place a découvert le corps. Par ailleurs, la voiture de la victime avait également été volée et retrouvée incendiée quelques jours plus tôt, toujours sur la commune de Dumbéa. Les investigations devront permettre d'établir les causes exactes du décès. Aucune hypothèse n'est pour l'heure privilégiée. C'est aujourd'hui une date importante pour certains professionnels de santé. Ce 12 mai marque en effet la Journée internationale des infirmières et pour rendre hommage à leur engagement sans faille au cours de l'an passé, la Province Sud a signé ce matin la charte pour le changement portée par le Conseil international des infirmières, Charlotte Coutson.
Ce n'est un secret pour personne, la profession est en grande souffrance. Il manquerait actuellement 216 infirmiers sur l'ensemble du territoire. Cette situation est évidemment en partie liée à la crise insurrectionnelle de l'an passé. On s'en souvient, les professionnels de santé ont dû travailler dans des conditions mêlant violence et insécurité. Aujourd'hui, la Province Sud a décidé de rendre hommage à leur courage et leur engagement, mais aussi de s'engager à son tour. La présidente de la Province Sud, Sonia Baquès, a rencontré les professionnels du Centre de la Santé et de la Famille, Lucie Lodz, à Montravel. Elle en a profité pour signer la charte pour le changement.
Concrètement, on s'engage à accompagner le personnel soignant dans sa formation, dans ses conditions de travail. Ce sont des engagements qui ne sont pas précis parce que ça dépendra de chaque collectivité, puisque c'est la Nouvelle-Calédonie qui décide des grilles pour les fonctionnaires, c'est la CAFAT qui décide pour le financement des infirmiers libéraux, donc ce n'est pas la province en elle-même. Mais l'idée, c'est un engagement d'accompagner parce que j'ai été très marquée par le fait que la moyenne de durée de travail d'un infirmier, c'est 8 ans. Au bout de 8 ans, les infirmiers changent de travail, c'est qu'il y a un problème dans leurs conditions de travail et l'idée, c'est de les améliorer, d'une part pour en attirer de l'extérieur, d'autre part pour que ceux qui sont ici restent.
Concrètement, cette charte liste 10 points à améliorer pour valoriser la profession d'infirmière. Selon François Delbois, le vice-président de l'Alliance des infirmiers calédoniens, cette signature est un premier pas vers plus de reconnaissance.
Vous savez que sur le territoire, on a un problème d'hémorragie d'infirmières et de soignants en général. Nous avons proposé déjà des solutions extrêmement concrètes à toutes les tutelles, à toutes les institutions. En termes de solutions concrètes, ça prend du temps. Tout le monde nous dit que ça prend 1 an, 2 ans. Et il fallait quand même un geste, une reconnaissance. Et la première reconnaissance, c'est la reconnaissance de leur engagement. Et d'un autre côté, s'engager. Cet engagement, c'était la signature de la charte aujourd'hui. Cette charte est en 10 points. Elle va reprendre le fait que les infirmières ont besoin de rémunération, ont besoin de reconnaissance universitaire, ont besoin de prendre en compte la science infirmière et enfin ont besoin, et c'est peut-être le point le plus important, de rentrer dans un processus de décision. Donc, au-delà du symbole, en disant « on reconnaît votre engagement », maintenant, ce qu'on attend, c'est des actes.
La province Sud est donc la première collectivité à avoir répondu à l'appel de la DIC et à avoir signé la charte pour le changement. Elle a également mis en place le dispositif Sud Santé qui vise à renforcer l'attractivité des métiers du soin. Le syndicat des infirmières avait également été reçu par la présidente du congrès la semaine dernière. Il attend maintenant plus d'action de la part des décisionnaires.
À 11h46, la première pause de ce journal. On se retrouve dans un instant pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Chaque mardi à midi, sur RRB, retrouvez votre magazine citoyen parrainé par la province Sud. Un rendez-vous consacré aux questions et aux faits de société. Citoyen, c'est le magazine qui participe à la vie et à la construction de la Nouvelle-Calédonie. Tous les mardis à midi, retrouvez votre magazine citoyen.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Dimanche 25 mai, c'est la fête des mères. Pensez à réserver votre table dans le restaurant Le Fun au 28 67 08. Retrouvez les suggestions spéciales fête des mères sur la page Facebook Le Fun.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité à l'étranger est marquée par cette déclaration du président russe Vladimir Poutine sur le conflit en Ukraine. Il propose des négociations directes et sans conditions préalables. Proposition, a-t-il précisé, pour éliminer les causes profondes du conflit. La correspondance de Caroline Baudry pour Europe 1.
Ce sont en tout cas les mots de Vladimir Poutine quand la nuit dernière, il convoque quelques dizaines de journalistes pour une allocution sans questions autorisées. Le président russe propose des échanges sérieux avec Kiev et insiste, ceux qui aspirent à la paix ne peuvent que les soutenir.
Leur objectif est d'éliminer les causes profondes du conflit et d'établir une paix durable à long terme dans une perspective historique. Nous n'excluons pas que lors de ces négociations, il soit possible de convenir de nouvelles trêves, d'un nouveau cessez-le-feu.
Le président russe prend rendez-vous jeudi 15 mai à Istanbul. La Turquie accepte, l'Ukraine aussi, mais réclame la présence du maître du Kremlin ainsi qu'un cessez-le-feu dès lundi. C'est ce qu'exigent avec force ses alliés européens, dont la France, qui voit dans cette main tendue de Poutine une façon de différer à nouveau un éventuel cessez-le-feu et de garder la main sur l'agenda.
Mais cette proposition du président russe suscite le scepticisme d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État juge la proposition de Vladimir Poutine insuffisante si les Ukrainiens continuent d'être bombardé, une réaction qui n'a pas suscité d'écho dans la classe politique française. Seule Marine Le Pen en déplacement en Italie a réagi. Jacques Serret pour Europe 1.
Aux côtés de Matteo Salvini, Marine Le Pen ne prend pas de pincettes depuis Rome. Auprès de la presse italienne, elle accuse Emmanuel Macron de se mettre, je cite, dans la peau d'un guerrier.
Je n'arrive pas encore à déterminer si Emmanuel Macron veut véritablement œuvrer à la paix. J'ai plutôt le sentiment, depuis déjà un certain nombre de mois, qu'il prépare plutôt la guerre. C'est là où est l'ambiguïté, en fait, de son comportement. Mais s'il veut œuvrer à la paix, je pense que toutes les voies sont la bienvenue pour obtenir la fin de cette guerre épouvantable, dont je rappelle que derrière les postures des uns et des autres, ce sont des centaines de milliers de jeunes gens qui ont été tués, qui ont été blessés.
La patronne des députés RN regrette notamment qu'Emmanuel Macron juge insuffisante la contre-proposition de Vladimir Poutine de négociations directes avec Kiev à Istanbul. Pour Marine Le Pen, la France devrait, je cite, consacrer tous ses efforts à agir en tant que médiatrice dans le sens de la paix.
L'actualité à Rome toujours. Avec la messe d'inauguration de Léon XIV, elle aura lieu le week-end prochain, mais le nouveau pape a prononcé hier, place Saint-Pierre, sa première bénédiction dominicale, prière au cours de laquelle il a prié pour la paix.
Mai più la guerra.
Jamais plus la guerre. Léon XIV a repris la formule de son prédécesseur Paul VI avait lancée à la tribune de l'ONU lors de l'Assemblée générale des 20 ans des Nations Unies en 1965. Léon XIV appelait à une paix juste et durable en Ukraine et à un cessez-le-feu à Gaza. Des dizaines de milliers de fidèles ont assisté à cette prière, place Saint-Pierre.
On est très touchés par toutes ces paroles, le fait de parler de la guerre, de la paix aussi. Et en fait, on voit que notre foi catholique aussi, elle s'ancre avec le monde entier.
C'est une très grande émotion et c'est un bon pape. On l'aime bien. Espérons qu'il agisse dans la continuité du précédent pape François, auquel il était très attaché.
Il a dit qu'aujourd'hui, c'est notre journée. Nous avons aussi sonné une chanson qui s'est Du Jubileo. C'est la chanson du Jubileo pour le pape. Émotionnante.
Voilà des propos recueillis place Saint-Pierre à Rome par nos confrères d'Europe 1. Il est 11h51.